RFI.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à l'Égypte, laquelle se prépare à un scrutin présidentiel sans surprise qui devrait conduire à la réélection du président Abdel Fattah al-Sissi. Un scrutin que d'aucuns dénoncent comme une farce électorale portée au pouvoir par l'armée lors du renversement du président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013. Le maréchal Sissi avait été élu président en mai 2014 avec 97% des suffrages, mais une participation de 47,5%. Obtenu à grand-peine. Sa popularité n'en était pas moins réelle chez des millions d'Égyptiens après les 3 années d'instabilité et d'insécurité qui ont suivi la révolution de janvier 2011. Qu'en est-il aujourd'hui ? Pourquoi les candidats à l'élection présidentielle égyptienne ont-ils jeté l'éponge les uns après les autres ? De quoi le président égyptien a-t-il peur ? Regard sur le bilan de son premier mandat avec nos invités. Robert Solé, chroniqueur à l'hebdomadaire Le 1, auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier, ils ont fait l'Égypte moderne aux éditions Perrin. Bonjour.
Bonjour.
Stéphane Lacroix, spécialiste du monde arabe, professeur associé à l'École des affaires internationales de Sciences Po et chercheur au CERI, auteur de l'Égypte en révolution aux presses universitaires de France, un ouvrage coécrit avec Bernard Rougier. Bonjour.
Bonjour.
L'arrivée au pouvoir du maréchal Sissi en mai 2014 s'inscrivait dans un contexte de grande instabilité et d'insécurité. Depuis, le président a achevé de monopoliser le pouvoir au rythme d'une répression féroce contre les opposants islamistes et pro-révolutionnaires et la mise au pas des contre-pouvoirs et des institutions de l'État. Les candidats à l'élection présidentielle ont les uns après les autres jeté l'éponge sous l'effet de fortes pressions. Le président Sissi se sent-il en danger alors que la colère gronde au sein de la population après les coupes aux subventions étatiques et la flambée de l'inflation à plus de 30%? Sissi n'est pas confiant. Pourquoi? Robert Solé.
Je pense que sa popularité a nettement baissé parce qu'il y a des déçus du sissisme, si l'on peut dire. Il y a d'abord ceux qui sont directement victimes de sa politique, que ce soit les frères musulmans qui sont en prison, que ce soit, vous l'avez cité, vous l'avez dit, des révolutionnaires de 2011 qui ont eu l'impression qu'on leur confisquait leur révolution, confisquée une première fois par les frères musulmans, une deuxième fois par l'armée qui contrôle tout. Mais il y a aussi les déçus, ceux qui souffrent de la hausse des prix en particulier, et ça c'est une grande partie de la population qui souffre de la hausse des prix, conséquence d'une nouvelle politique économique qui était nécessaire du point de vue de l'État. Il fallait restructurer l'économie égyptienne, mais ça s'est fait brutalement sous la pression du Fonds monétaire international. Et beaucoup de gens souffrent et constatent que la sécurité que Sissi promettait d'assurer est toujours relative, puisqu'il y a encore dans le Sinaï des combats avec des djihadistes et de temps en temps dans la vallée du Nil des attentats.
Alors Robert Solé, vous avez fait le plan de l'émission. Je me tourne vers Stéphane Lacroix, Sissi qui n'est pas confiant. Vous partagez ce que vient de dire Robert Solé, Stéphane Lacroix ?
Oui, absolument. Je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que Sissi a tiré une leçon de la révolution de 2011, qui est que c'est parce que, encore selon lui, Moubarak a ouvert l'espace politique dans les années qui ont précédé 2011, puisque effectivement, on a en Égypte, à partir du milieu des années 2000, on autorise une vie politique à minima, mais avec quand même une opposition représentée au Parlement, une presse semi-libre, des groupes qui se constituent, en particulier des groupes de jeunes, que l'État ne prend pas beaucoup au sérieux. La lecture que fait Sissi, c'est précisément parce que Moubarak a été faible, c'est-à-dire parce qu'il a permis, même à minima, la constitution d'une société civile et politique qui était très contrôlée, mais qui avait le mérite d'exister sous Moubarak. Eh bien, ce sont ces gens-là que l'État sous Moubarak ne prenait pas au sérieux, qui ont fait la révolution. Et donc, Sissi, ce qu'il a tiré comme leçon, c'est qu'il ne faut laisser aucun espace politique. C'est-à-dire que même ce qui peut sembler le plus insignifiant peut s'avérer dangereux. Effectivement, les jeunes qui ont fait la révolution de 2011 étaient pour la plupart des gens qui étaient actifs politiquement dans les dernières années des régimes Moubarak et jamais vraiment pris au sérieux. Ils faisaient des manifestations sur la place Tahrir, ils étaient quelques centaines, entourés par 2 fois plus de policiers, on les voyait toute la deuxième partie des années 2000, et le régime les regardait sans vraiment les prendre au sérieux. Donc la première chose, c'est que Sissi, de toute façon, Il est méfiant par nature. C'est-à-dire que ce qu'il a retenu de 2011, c'est qu'il faut être méfiant par nature. Et puis, le deuxième élément, il est plutôt lié aux équilibres au sein de l'armée. Je crois que la seule chose qui fait vraiment peur à Sissi, c'est l'armée. C'est-à-dire que finalement, il sait que tout est tellement verrouillé, la rue est tellement tenue, les gens ont tellement peur. Et par ailleurs, il y a une sorte de désespoir profond, de sentiment que de toute façon on ne peut rien changer. Donc c'est pas tant la société qui va bouger. Par contre, au sein de l'armée, Sissi sait qu'effectivement, il a des concurrents. Il sait que l'armée n'est plus unie comme un seul homme derrière lui. Et un certain nombre des candidats qui ont été écartés et qui voulaient se présenter contre lui étaient des militaires. Je ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel on va revenir, mais il y a eu deux épisodes tout à fait intéressants. D'abord, Ahmed Shafir, qui a été le au second tour de l'élection présidentielle en 2012 contre Morsi, qui est issu de l'armée de l'air, qui a été le dernier premier ministre de Moubarak, donc c'est aussi un homme qui a une expérience politique assez longue, mais qui est issu de l'armée, a essayé de se présenter contre Sissi à la fin de l'année 2017. Il était basé aux Émirats et il a annoncé sa candidature depuis les Émirats. Et les Émirats sont un allié de Sissi et donc l'ont expulsé vers l'Égypte. Et il a été détenu dans un hôtel à son arrivée au Caire pendant quelques jours. C'est pas ce qui s'est passé, mais quelques jours après, il est ressorti en disant finalement ma candidature n'était pas une bonne idée, je la retire. Et puis, l'ancien chef d'état-major ensuite, Samir Anan, a présenté sa candidature. Donc en deuxième rebelote, un autre militaire, et pas n'importe lequel, quelqu'un qui a été chef d'état-major de 2005 à 2012, présente sa candidature. Et là encore, trois jours après, il est arrêté, accusé de fomenter des divisions entre l'armée et le peuple, et mis en prison. Et dans les deux cas, on peut se dire qu'évidemment, ces militaires qui sont pas nés de la dernière pluie, s'ils présentent leur candidature, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont des soutiens. C'est parce qu'ils savent que il y a au sein de l'armée des gens qui sont prêts à les soutenir. Alors, leur pari a échoué, hein, donc Sissi tient encore bien l'armée. Mais là encore, on sent avec ce type de militaires qui se mettent en avant contre Sissi, voilà, on sent des dissensions. Et je crois que c'est ça qui lui fait vraiment peur.
Alors, le seul candidat, Robert Solé, c'est Moustapha Moussa,
qui
n'est pas un opposant ou un candidat qui fasse peur à Sissi.
Non, qui est un illustre inconnu, qui ne compte pas, qui est à la tête d'un parti inexistant, qui fait de la figuration. Cela dit, pour compléter et un petit peu relativiser tout ce qu'on vient de dire, si vous voulez, même s'il y a déception, même si cette élection est jouée d'avance, même si la participation risque d'être faible, et ça sera un enjeu de cette élection, même s'il y a tout ça, je pense qu'il faut quand même tenir compte du fait que pour beaucoup d'Égyptiens, Sissi reste celui qui les a débarrassés des frères musulmans, celui qui a empêché une sorte de guerre civile, celui qui a maintenu l'État, celui qui a empêché l'Égypte de basculer dans un modèle libyen, syrien, yéménite, etc. Il y a ça quand même, si vous voulez. De la part des Coptes, par exemple, des chrétiens coptes, même si beaucoup de Coptes sont déçus par Sissi, il reste la seule solution, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il a fait en sorte, d'ailleurs, qu'il n'y ait pas d'alternative. Et il n'y en a pas pour le moment.
Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de la révolution? Qu'est-ce qu'il reste de la révolution de 2011? Le besoin de changement, est-ce qu'il est toujours dans les esprits? Et est-ce que des espoirs subsistent? Et si oui, lesquels, Stéphane Lacroix?
Il est évident qu'il y a une fracture générationnelle qu'on continue à percevoir aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les jeunes Égyptiens qui ont grandi dans un monde très différent de celui de leurs parents, un monde où ils ont accès à des sources d'informations diverses, ils sont très connectés sur Internet, en tout cas pour ceux qui sont de classe moyenne, on va dire, hein, parce que c'est peut-être moins le cas dans les campagnes, mais il y a quand même toute une partie de cette jeunesse urbaine en particulier qui a accès à énormément de choses et qui fait que sa vision du monde est infiniment plus complexe que celle de la génération précédente. Et moi, je le sens avec les jeunes Égyptiens que j'ai côtoyés en Égypte, mais aussi mes étudiants égyptiens à Sciences Po, j'en ai un certain nombre, et on voit effectivement que la plupart d'entre eux, ils se sont résignés à Sissi parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, pour le moment, il n'y a pas d'alternative, ou plutôt il a fait en sorte qu'il n'y en ait pas, comme l'a dit Robert Solé. Mais j'ai l'impression qu'ils n'y croient pas, à la différence de leurs parents. Et quand j'en parle avec eux, ils me disent ça. Ils me disent, mes parents y croient parce qu'il y a encore cette image un peu nassérienne de l'homme fort qui va redresser le pays, qui va faire de l'Égypte un grand pays, etc. Ce discours-là, très nationaliste aussi, et Sissi en joue à merveille. Hein. Il y a chez Sisi un discours ultra-nationaliste, chauvin même, hein, tout à fait frappant. Ça fonctionne beaucoup moins dans la jeune génération, à mon sens, qui se rend compte que les choses sont plus compliquées, qu'il n'y a pas de sauveur. Mmh. C'est-à-dire que cette idée de l'homme fort qui va sauver le pays à lui tout seul, d'une certaine manière, elle est un peu datée. Que les équilibres internationaux sont complexes, que la démocratie est un système qui, malgré tout, a le mérite de plutôt bien fonctionner dans toute une partie du monde sur laquelle ces jeunes aussi peuvent être connectés, et c'est des choses qui les inspirent. Donc voilà. Donc j'ai l'impression que cette différence-là, elle perdure. C'est-à-dire que là encore, le seul soutien enthousiaste qu'on va encore trouver aujourd'hui, il est chez la génération antérieure. Ceux qui, à tort ou à raison, plutôt d'ailleurs à tort, mais ont tendance à assimiler Sisi à Nasser, alors que Sisi, c'est un peu le Nasser du pauvre, quoi. C'est quand même, quand on compare l'un et l'autre, il n'a pas le charisme, il n'a pas le projet régional qu'avait Nasser. C'est un projet très égypto-centré que celui de Sisi. Il n'a pas les grandes promesses. Il fait du Nasser sans Nasser, enfin, d'une certaine manière. Mais là encore, ça peut inspirer, malgré tout, la génération entière. J'ai l'impression que chez les jeunes, ce qui reste, c'est un changement d'époque avec des gens qui, effectivement, par nécessité, vont, pour un certain nombre d'entre eux, le soutenir, mais de manière très résignée et sans y croire.
Robert Solé, vous partagez ?
Oui. Je pense que pour la plupart des Égyptiens aujourd'hui, c'était mieux avant. Il y a ce sentiment, quand on parle avec les gens, c'était mieux avant. Alors, pour certains, c'était mieux avant du temps de Moubarak. Pour d'autres, c'était mieux avant du temps de Sadat ou Nasser. Pour les plus vieux, c'était mieux du temps du roi Farouk, etc. Donc, il y a ce sentiment, c'était mieux avant. Et c'est vrai que l'Égypte se portait mieux avant, économiquement, à tout point de vue. L'environnement régional lui-même était meilleur qu'aujourd'hui, bien entendu. Cela dit, je pense que 2011 a eu lieu. C'est-à-dire ce fameux printemps qui a si déçu, ce printemps avorté, a quand même eu lieu. Et le fait qu'il ait eu lieu reste quand même. Et on en trouve des traces importantes dans les réseaux sociaux. Vous avez de nombreux jeunes, Stéphane Lacroix parlait des jeunes justement, qui sont présents là, et massivement présents dans ces réseaux sociaux. Et dans ces réseaux sociaux, on sent bien une certaine modernité. Ce n'est pas un hasard si on débat d'athéisme aujourd'hui, on commence. Il y a des fous qui veulent pénaliser l'athéisme. Mais c'est parce qu'il y a justement quelque chose qui émerge là, si vous voulez. Il y a quelque chose qui émerge chez tous ces jeunes. Je pense que ces jeunes souffrent d'une double répression. Il y a cette répression politique, mais il y a aussi cette chape de plomb qui est la religion en Égypte et qui pèse énormément. Et depuis, c'est pas
chape
depuis
de plomb,
Sisi.
Chape de plomb, qu'est-ce qu'il faut entendre, Robert?
Il faut entendre par là que le poids des religieux, le poids des conservateurs religieux dans cette société est très fort. Et ça, ce n'est pas nouveau. Ça a commencé dans les années 70. Quand on a introduit d'ailleurs dans la Constitution cet article 2 qui dit que la législation égyptienne s'inspire essentiellement du droit musulman, ce qui est absurde. Et tout ça, si vous voulez, se traduit concrètement par une certaine censure. Il y a une sorte de contrat, il y a toujours eu un contrat entre le pouvoir politique et les autorités religieuses. Vous appuyez ma politique, quelle qu'elle soit. Je fais la paix avec Israël, je fais la guerre à Israël, etc. Je m'allie aux États-Unis, je m'allie à l'Union soviétique. Vous me soutenez et en échange, je vous laisse un certain contrôle sur la société. C'est pas parce qu'on a mis les frères musulmans en prison que l'islamisme a disparu.
Alors justement, c'est la question que je voulais vous poser. Quelle est la situation des frères musulmans aujourd'hui? Et par rapport à ce que vous avez dit l'un et l'autre quant à ce qui peut rester de la révolution, l'exemple syrien est quelque chose qui pèse aussi lourd sur l'Égypte, ce chaos syrien. Stéphane Lacroix.
C'était l'argument que Sisi est d'ailleurs utilisé jusqu'à la corde, quoi. Ici, c'est mieux que la Syrie et l'Irak, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'à minima, effectivement, la justification du régime Sisi, c'était celle-là. C'est de dire, même si les choses vont pas bien, c'est toujours mieux que chez les voisins. Effectivement, et donc c'est un argument qui a été utilisé en particulier dans les médias qui sont aujourd'hui tous pro-Sisi. Il n'y a plus en Égypte de médias dissidents et c'est un argument qu'on entend beaucoup.
Beaucoup de journalistes qui ont été mis en prison.
Et beaucoup de journalistes qui ont été mis en prison. La répression est d'une... Enfin, on l'a dit et je crois qu'il faut quand même le redire une nouvelle fois. On est quand même dans une situation de répression qui dépasse tout ce qu'a connu l'Égypte. Probablement même, peut-être dépasse l'époque nassérienne en fait. C'est-à-dire que ça se joue entre Nasser et Sisi aujourd'hui. Mais tout le monde est à peu près d'accord pour dire que sous Moubarak c'était mieux. Là pour le coup, en termes d'espace politique, politique, en particulier dans les dernières années du régime Moubarak. Bon, tout ça a complètement disparu. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule ligne, et tous ceux qui s'en écartent sont en prison, des dizaines de milliers de prisonniers politiques, des disparitions forcées par centaines ou par milliers, c'est-à-dire de gens qui, en fait, disparaissent et qui, quelquefois, réapparaissent quelques mois plus tard dans un poste de police, quelquefois ne réapparaissent pas, des journalistes en prison par dizaines, tout ce qui restait d'activisme politique est aujourd'hui criminalisé, et Robert Solé l'a dit, un conservatisme aussi très fort. La chose la mieux partagée entre les élites égyptiennes, c'est ce conservatisme. Le régime qui a criminalisé ou qui veut criminaliser l'athéisme et qui lance des chasses aux homosexuels, c'est le régime de Sissi. Enfin, c'est pas quelque chose qui était propre aux islamistes. D'une certaine manière, Morsi, on aurait peut-être rêvé, mais c'est Sissi qui l'a fait, d'une certaine manière. Donc, c'est vrai que cette chape de plomb, elle est extrêmement forte. Pour ce qui est des frères musulmans, qui était votre question, les frères musulmans, ils ont été donc visés prioritairement par la répression, dans un premier temps en tout cas. Maintenant, effectivement, ils sont plus actifs en tant que tels dans le pays, donc le régime s'est trouvé d'autres ennemis. D'une certaine manière, on a un régime qui a besoin d'un ennemi. Donc une fois que les frères musulmans n'étaient plus un ennemi opérationnel, on est allé chercher les jeunes révolutionnaires, et puis ensuite, on est allé chercher d'autres groupes vus comme subversifs. Donc les frères musulmans, c'est vrai que depuis 2014-2015, on ne les voit plus, par exemple, dans la rue. Ils ont continué à faire des manifestations pendant un an et demi, après le coup d'État. Et c'est vrai que depuis, les manifestations ont cessé parce que la répression était tellement violente que soit ils sont en prison, soit ils sont en exil. Il y a effectivement plusieurs milliers de dirigeants, de cadres des frères musulmans en exil. Ils sont souvent entre Istanbul et Doha, hein, puisque les deux derniers pays à continuer à les soutenir, c'est la Turquie et le Qatar. Et donc, il y a Istanbul en particulier, un quartier égyptien quasiment, et quartier où on voit tous ces militants frères musulmans qui se sont regroupés et qui jouissent du soutien de la KP turque en particulier et qui continuent à y croire depuis Istanbul. Et puis en Égypte même, c'est vrai que la plupart des gens qui étaient militants frères musulmans, il y en a encore beaucoup qui sont encore en Égypte et qui étaient militants frères musulmans, mais qui ont mis en veille leur activisme. Aujourd'hui, ils ont cessé de manifester, ils ont cessé de parler de politique, ils se retrouvent à minima pour lire le Coran, donc ça existe encore. Il y a quand même, malgré tout, à mon avis, les réseaux frères musulmans en tant que tels n'ont pas disparu en Égypte, mais les militants ont compris que, d'une certaine manière, rien ne pouvait être fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, les risques étaient tels que ça valait pas la peine de les prendre. Et donc, voilà, cette organisation, elle peut se recréer assez rapidement parce qu'en fait, elle est très inscrite d'une certaine manière dans le tissu social égyptien. Et les liens personnels qui unissaient ses membres en Égypte perdurent. Mais c'est vrai que la plupart d'entre eux, ceux qui sont restés en Égypte aujourd'hui, ils sont revenus à une activité infrapolitique, quoi, d'une certaine manière.
Il faut dire aussi, pour préciser ce qui a été dit à propos des frères musulmans, que le mouvement a été décrété mouvement terroriste en 2013. Et pour étayer la répression qui prévaut aujourd'hui en Égypte, selon l'ONG Human Rights Watch, plus de 41 000 Égyptiens sont derrière les barreaux aujourd'hui. Robert Solé, un commentaire sur ce que Stéphane Lagrange.
Non, oui, tout ça, bien sûr. Simplement, je pense qu'il ne faut pas. Il faut pas présenter l'Égypte comme un pays qui serait passé d'une démocratie à une dictature, n'est-ce pas? Il faut voir, Sissi arrive au pouvoir en 2013 en s'appuyant sur de grandes manifestations populaires, l'armée confisque tout ça, prend le pouvoir de fait, mais il faut voir dans quel état est le pays à ce moment-là. Je veux dire que, alors Sissi est responsable de plein de choses, mais il faut voir dans quel état il prend un pays aussi. C'est 60 ans de mauvaise gestion, 60 ans de bureaucratie, de corruption, d'arrestation arbitraire, de torture en prison, etc. Il faut bien voir ce que c'est, n'est-ce pas? Un pays dont la démographie est galopante, dont la population a doublé en 30 ans. Un pays très difficile à gérer. Un pays qui a un environnement, comme on le disait tout à l'heure, catastrophique. On n'a jamais vu ça dans la région. On n'a jamais vu la Libye à feu et à sang, on n'a jamais vu la Syrie à feu et à sang, on n'a jamais vu l'Irak, etc. Il faut voir dans quel contexte tout ça se fait, si vous voulez. Alors, ça n'excuse évidemment pas tout ce qu'on a dit, mais il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte.
Pays difficile à gérer, environnement régional catastrophique, géopolitique, nous poursuivrons dans la deuxième partie sur ces thématiques. Nous retrouvons nos invités Robert Solé et Stéphane Lacroix dans quelques instants.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'Égypte. À la veille de l'élection présidentielle, nous retrouvons nos invités, Robert Solé, chroniqueur à l'hebdomadaire Le 1, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Ils ont fait l'Égypte moderne, aux éditions Perrin, et Stéphane Lacroix, spécialiste du monde arabe, professeur associé à l'École des affaires internationales de Sciences Po et chercheur au CERI, auteur de L'Égypte en révolution aux presses universitaires de France, un ouvrage coécrit avec Bernard Rougier. Robert Solé, vous le disiez dans la fin de la première partie de l'émission, l'Égypte, un pays difficile à gérer, un environnement régional catastrophique. Nous allons développer tout cela. Pour commencer, les questions économiques. Le président Sissi a entrepris au cours de son premier mandat une série de réformes économiques destinées à sortir l'Égypte d'un modèle d'État-providence hérité de l'époque nassérienne. Quelle est la vision qui soutient les réformes et où en sont-elles? Quel bilan peut-on faire rapidement? Une pauvreté qui atteint 40% de la population et une classe moyenne économique asphyxié. Robert Solé.
Oui, il ne faut pas oublier que l'Égypte a des atouts. L'Égypte n'est pas un pays pauvre, c'est un pays, si vous voulez, en grande difficulté économique. Mais c'est un pays qui a des atouts. L'Égypte a le canal de Suez. L'Égypte a un patrimoine touristique exceptionnel, même si le nombre de touristes a actuellement baissé.
Mais il remonte progressivement.
Il remonte un peu. Et en tout cas, ce patrimoine existe. L'Égypte a des hydrocarbures et va avoir bientôt un gisement, va profiter d'un gisement de gaz exceptionnel en Méditerranée. L'Égypte a beaucoup d'argent de travailleurs à l'étranger qui rapatrient de l'argent pour aider des personnes, des familles en difficulté. Et l'Égypte a une sorte de rente géostratégique parce que c'est un pays important que les différentes puissances ont intérêt à soutenir. Donc tout ça, ce sont les atouts de l'Égypte. Alors les difficultés, évidemment, je parlais tout à l'heure de la démographie, je crois que c'est un sujet essentiel. Vous avez 2 millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail tous les ans, il y a du chômage. Il fallait restructurer cette économie parce que 70% des recettes égyptiennes, du budget égyptien, étaient pris par le service de la dette. L'Égypte est très endettée. Était pris par les salaires des fonctionnaires, il y a 6,5 millions de fonctionnaires, et était pris par des subventions alimentaires ou des subventions à l'énergie qui ne profitaient pas nécessairement aux plus pauvres. Et tout ça devait être structuré. Alors c'est très douloureux, cette restructuration, d'autant qu'il y a des inégalités criantes et qui s'accentuent dans ce pays. Et donc, il y a une grande souffrance, il y a une hausse des prix colossale.
Une inflation de 30%?
Oui, et les salaires ne suivent pas, évidemment. C'est-à-dire que la monnaie égyptienne a été dévaluée de moitié, mais il y a des prix qui ont triplé ou quadruplé. Et tout ça est très fortement ressenti par la population.
Alors, on l'a dit aussi dans la première partie de l'émission, l'Égypte a été contrainte de s'en remettre au Fonds monétaire international, d'où les ajustements structurels exigés par le FMI, en contrepartie donc d'un prêt de 12 milliards de dollars. Stéphane Lacroix, le contrôle accru de l'armée sur l'économie depuis 2014, il mécontente les hommes d'affaires qui ont perdu en marge de manœuvre.
Oui. En tout cas, c'est vrai que l'armée a toujours été un acteur économique majeur en Égypte. Hein. Elle contrôle une partie du secteur économique. Alors il y a débat pour savoir combien. On entend entre 10 et 40%. Sissi a dit qu'il n'était pas d'accord et que c'était seulement 3% dans un discours récent. C'est probablement pas crédible. Les estimations sérieuses, c'est minimum 10%. En tout cas, on a une armée qui, en tout cas, contrôle toute une partie du secteur économique et des choses qui n'ont rien à voir avec le militaire. L'armée contrôle des complexes touristiques, de l'agroalimentaire, enfin, je veux dire, des activités économiques qui sont pas liées directement à l'activité militaire.
Donc, c'est une façon aussi pour le président Sissi de garantir des alliances au sein de l'armée.
Bien sûr, parce que c'est une armée qui est très bien nourrie et qui, d'une certaine manière, a ses ressources propres, qui lui permettent aussi de jouir, en tout cas les officiers, de privilèges qui sont pas négligeables du tout en Égypte. Quand on est officier en Égypte, on a accès un certain nombre de choses auxquelles les Égyptiens moyens n'ont pas accès. Donc il y a vraiment un sentiment un peu de caste. On a accès à des clubs tout à fait agréables, avec des belles piscines. On a accès à des hôpitaux qui sont de qualité supérieure aux hôpitaux auxquels ont accès le commun des Égyptiens, etc. Donc quand on est militaire, on fait partie de cette caste. Et cette caste, effectivement, elle a, avec tout cet empire économique, ses ressources propres. Mais c'est vrai qu'on avait vu pendant la période Moubarak se mettre en place une sorte de compétition, parce que Moubarak, qui était lui-même issu de l'armée, mais qui en fait avait très rapidement voulu gouverner comme un civil, en soutenant une élite politique civile et en s'entourant en particulier d'hommes d'affaires, souvent proches de son fils qui était lui-même un homme d'affaires, du coup on avait vu une compétition entre cette nouvelle élite porté par Moubarak, civil et plutôt lié au milieu des affaires, et l'armée, en particulier une compétition économique. Et beaucoup avaient expliqué, en fait, le choix de l'armée de soutenir la révolution de 2011 par cette compétition. C'est-à-dire que Moubarak était vu de plus en plus comme un problème, parce que d'abord, effectivement, il avait pris le pouvoir aux militaires, et il l'avait tiré vers le civil, et puis parce que Moubarak, et en particulier les gens qu'il soutenait dans le milieu économique et son fils, contribuaient à mettre en péril les activités économiques de l'armée. Donc l'armée a pris sa revanche après 2013, et aujourd'hui elle est redevenue un acteur central du jeu économique, comme elle l'avait été par le passé. Alors, les hommes d'affaires continuent d'avoir leur part du gâteau, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est l'armée qui donne le là dans le secteur économique. Et en particulier, parce que, par exemple, pour l'aide qui vient des pays du Golfe, qui est un enjeu majeur, il y a plusieurs dizaines de milliards de dollars qui ont été donnés à l'Égypte par l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, un petit peu le Koweït. Eh bien, tout cet argent, généralement, passe par des projets d'investissement en Égypte ou des grands projets, hein, les Émiriens en particulier fonctionnent beaucoup sur projets, et généralement ce sont des compagnies de l'armée qui bénéficient de ces projets, et pas les compagnies du secteur privé égyptien. Et donc ça fait un peu grincer des dents, effectivement. Pour le moment, j'ai l'impression que les hommes d'affaires sont restés encore loyaux, hein. On a vu de temps en temps apparaître un mécontentement. Le mécontentement en Égypte, on le voit très clairement parce que les hommes d'affaires possèdent les médias. Et donc, dès qu'on entend sur un média égyptien qui sont très largement pro-Sissi, dès qu'on entend une critique de Sissi, c'est parce que c'est un homme d'affaires qui veut faire passer un message. On n'est pas dans un jeu démocratique, on est dans un jeu où les uns et les autres se font passer des messages par médias interposés. Et là, c'est vrai que pour les élections en particulier, les médias sont en ordre de bataille pour soutenir Sissi. Donc on sent que les hommes d'affaires, pour le moment, continuent à rester dans le camp du maréchal. Mais c'est vrai que c'est un risque pour lui. Et eux sentent de plus en plus que l'armée prend une place démesurée.
Alors, on en a parlé, l'Arabie Saoudite, Stéphane Lacroix vient d'en dire quelques mots. Ce qu'on peut noter, Robert Solé, c'est que la première visite à l'étranger du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman a été pour l'Égypte. L'Arabie Saoudite représente le premier investisseur arabe en Égypte. On a assisté là à une rencontre entre les hommes forts des deux pays arabes alliés des États-Unis. On peut rappeler que sous Obama, il y a eu une suspension d'une partie de l'aide militaire américaine. Est-ce qu'on peut voir les choses bouger avec Donald Trump à la Maison-Blanche?
Oui, alors Stéphane Lacroix parlera mieux que moi de l'Arabie Saoudite, sans doute, tout à l'heure. Simplement, d'un mot et de façon très schématique, les relations entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite sont très complexes. L'Arabie Saoudite a soutenu, je parle de façon très schématique, soutenait en Égypte les salafistes, alors que le Qatar soutenait les frères musulmans. L'Arabie Saoudite a immédiatement soutenu Sissi à son arrivée au pouvoir, financièrement et tout, et ensuite il y a eu des difficultés. Des difficultés qui tenaient notamment à la Syrie, où l'Égypte et l'Arabie Saoudite n'avaient pas la même position sur la Syrie. Des difficultés tenant au Yémen, où l'Arabie Saoudite a essayé d'entraîner l'Égypte dans cette aventure militaire qui tourne au fiasco au Yémen. L'Égypte a de très mauvais souvenirs ayant été sous Nasser enlisé au Yémen. Il y a des conflits de ce type entre les deux pays, mais en même temps, l'Arabie Saoudite est un soutien de l'Égypte pour le moment et essaye d'entraîner l'Égypte dans cette alliance sunnite contre l'Iran.
Stéphane Lacroix, les priorités égyptiennes en termes de politique étrangère, Gaza, la Libye et le barrage éthiopien de la Renaissance, là on parle de l'alimentation en eau des eaux du Nil.
Oui, c'est toujours des priorités, là encore, que les Égyptiens mettent sous la catégorie souveraineté, nationalisme, etc. Ce sont des priorités très égypto-égyptiennes. Sous Sissi, en Égypte, on l'a dit, on fait du nationalisme égyptien. Sissi se targue de protéger les intérêts de l'Égypte, de protéger sa sécurité aussi. Et donc, effectivement, la Libye est vue comme un risque majeur parce qu'elle est exportatrice d'insécurité. Et il est vrai qu'on parle souvent des groupes djihadistes du Sinaï, mais il y a aussi des groupes actifs de l'autre côté de l'Égypte, du côté de la frontière libyenne, en particulier dans les oasis de Bahariya, enfin, il y a de Farafera, il y a tout un chapelet d'oasis qui sont proches de la frontière libyenne et qui ont été le lieu d'affrontements entre l'armée et des militants djihadistes, et avec des armes qui probablement proviennent de Libye, et des gens qui quelquefois même on trouve en Libye une base arrière. Donc la Libye, c'est le premier problème sécuritaire. Gaza, c'est la même chose mais avec le Sinaï, c'est-à-dire que il y a effectivement des liens qui se sont construits entre les groupes djihadistes du Sinaï et un certain nombre de partenaires à Gaza, pas nécessairement le Hamas d'ailleurs, qui est plutôt opposé au groupe djihadiste à Gaza, mais des groupes comme Jaych al-Islam, qui était un groupe djihadiste actif à Gaza, et d'ailleurs qui s'est plusieurs fois confronté au Hamas, hein. Mais c'est vrai qu'il y avait des liens en tout cas et des armes qui passaient par les tunnels entre Gaza et le Sinaï. Donc ça a été l'autre grande priorité sécuritaire. Donc avec une politique qui en fait sur Gaza est une politique de coopération étroite avec Israël, hein. La relation avec Israël a jamais été aussi bonne d'une certaine manière. Les Israéliens s'en félicitent, disent que Sissi est leur meilleur ami.
Il y a un contrat gazier d'ailleurs qui vient d'être signé entre Israël et l'Égypte.
Ah oui, non, la relation, elle a toujours été plutôt cordiale avec Israël, même sous Moubarak, mais elle n'a jamais été aussi bonne d'une certaine manière. Et en plus, maintenant, vous avez Mohamed Salman qui lui-même est en train de se rapprocher d'Israël, et donc vous avez un triangle sécuritaire là qui est en train de se mettre en place.
Saoudien, égyptien et israélien.
Israélien, et qui est tout à fait... Et puis, la question de l'Éthiopie, c'est le barrage et les eaux du Nil. Peut-être Robert Solé, vous voulez en dire un mot ?
Robert Solé.
Oui, en effet, parce que c'est très important. Enfin, l'Égypte est dépendante du Nil à la fois pour son eau et son électricité. Et vous savez que l'Éthiopie est en train de mettre en place un énorme barrage sur le Nil bleu. Et ça inquiète énormément l'Égypte parce que ça va réduire ses quantités d'eau et d'électricité. Et il y a un problème aujourd'hui avec un autre pays qui est intermédiaire, qui est le Soudan. L'Égypte et le Soudan ont des relations compliquées. Le Soudan est une ancienne colonie égyptienne. Il y a toujours eu des relations très compliquées, mais jusqu'à présent, pour ce qui était des eaux du Nil, il y avait un accord entre l'Égypte et le Soudan contre, je dirais, tous les autres riverains du Nil, qui fait que le Soudan s'est rallié depuis peu, finalement, à l'Éthiopie. Fait alliance avec l'Éthiopie et trouve un avantage au barrage éthiopien. Et là, ça inquiète énormément l'Égypte, qui se retrouve seule dans ce conflit, un conflit qui peut très mal tourner, théoriquement. Enfin, on n'imagine pas que ça ira jusqu'à un affrontement militaire. L'Égypte a mal géré ce dossier, n'a pas su freiner les Éthiopiens, retarder leur projet, et se trouve extrêmement embarrassée par ce barrage sur le Nil bleu.
L'Égypte a mal géré le dossier parce que ce qu'on peut rappeler pour nos auditeurs, c'est que le Caire a toujours géré cette question. En tout cas, c'est le pays d'aval qui avait autorité sur la question du Nil, que ce projet éthiopien de barrage de la Renaissance. La question qui se pose est de savoir en combien d'années les Éthiopiens vont entendre remplir ce barrage. En tout cas, on peut penser que 2018 va être une année importante sur cette question. J'en reviens à la question des États-Unis. Stéphane Lacroix, je le disais, l'administration Obama, en 2014, avait décidé de suspendre une partie de l'aide américaine, militaire américaine, ce qu'on a vu, parce que c'est vrai que l'Égypte criait à la trahison. Depuis, et ça c'est un des bilans aussi du premier mandat du président Sisi, on voit l'Égypte resserrer les liens avec la Russie et la Chine pour réduire cette dépendance vis-à-vis des États-Unis.
Oui, ça c'était pendant la période Obama, effectivement, Sisi avait allé regarder du côté de la Russie et de la Chine, parce que Obama était détesté par les Égyptiens, en tout cas par le gouvernement égyptien, comme il l'était d'ailleurs par les Saoudiens à la même époque. Obama, d'une certaine manière, s'est mis à dos un certain nombre d'alliés traditionnels des États-Unis dans la région, donc que ce soit les Égyptiens ou les Saoudiens. Avec l'arrivée de Trump au pouvoir, les choses ont changé. C'est-à-dire que Trump a été vu un peu comme le Messie, aussi bien d'ailleurs par les Égyptiens que par les Saoudiens, parce que Trump, lui, ses questions en particulier de droits de l'homme, qui apparaissait dans le discours d'Obama. C'est pas pour dire que les États-Unis avaient une position particulièrement forte sur les droits de l'homme. Enfin, l'administration Obama se sentait obligée quand même d'en parler. même si au bout du compte on n'en faisait pas grand-chose, mais on en parlait. Trump, lui, ça ne l'intéresse pas du tout. Il considère Sisi comme un partenaire majeur. La question de la lutte contre le terrorisme, qui est un peu le dada de Sisi, c'est aussi le dada de Trump. Ils ont une analyse, d'une certaine manière, tout aussi simpliste de la région. Donc, d'une certaine manière, ce sont voilà des deux esprits simples qui se sont retrouvés pour une lecture binaire des dynamiques politiques dans la région. Il y a la stabilité contre le terrorisme. Donc, c'est vrai que depuis l'arrivée de Trump, les relations se sont considérablement réchauffées. Sisi, qui était plus ou moins persona non grata à un moment auprès des Américains, est devenu un partenaire privilégié. Et ce triangle sécuritaire dont on parlait tout à l'heure, en fait, il est un peu sous la tutelle de Trump. C'est-à-dire que aussi bien Sisi que Mohammed Ben Salman que Netanyahou sont un peu les trois fans de Trump dans la région. Trump le leur rend bien. Enfin, pour l'Égypte, en tout cas, le contexte a considérablement changé dans sa relation avec les États-Unis. Aujourd'hui, les relations qui s'étaient constituées avec la Russie, par exemple, et avec Poutine, perdurent. Donc, effectivement, structurellement, on a aujourd'hui une Égypte qui a diversifié ses relations internationales et qui n'est plus dans une relation de face-à-face avec les États-Unis comme elle l'était par le passé. Mais en même temps, les États-Unis sont redevenus, avec Trump, le partenaire majeur.
Et la Chine qui est assez présente. Peut-être une dernière question sur laquelle je vais vous demander chacun de répondre. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Égypte est un pays à même de peser sur les grands dossiers régionaux, Robert Solé?
L'Égypte reste un pays essentiel dans la région, notamment à propos du conflit israélo-arabe, parce que sans l'Égypte, on ne peut pas faire la guerre et sans l'Égypte, on ne peut pas faire la paix. L'Égypte a conclu la paix avec Israël et a maintenu cette relation pacifique avec Israël malgré les sentiments violemment anti-israéliens de la population égyptienne. Et de ce point de vue, l'Égypte compte également dans cette, on a parlé de cette lutte contre le terrorisme par sa position. L'Égypte se trouve entre la Libye, dont vous connaissez l'État, et se trouve sur son propre territoire, dans le Sinaï, avec une présence djihadiste à la frontière de Gaza, à la frontière d'Israël. Et donc l'Égypte compte et continue de compter, même si le maréchal président Sisi a d'énormes problèmes dans son propre pays, qui fait que, contrairement à Nasser, il n'a pas le temps ni les moyens de s'occuper des autres pays de la région.
Alors, est-ce que compter, c'est aussi peser, Stéphane Lacroix, dans les grands dossiers régionaux?
Voilà, comme l'a dit Robert Solé, je veux dire, l'Égypte aujourd'hui est très égypto-centrée. Effectivement, elle a ses problèmes à régler. De toute façon, elle se préoccupe en vérité assez peu du reste du monde arabe. Toute la rhétorique est celle de la défense des intérêts égyptiens, de la défense de l'État égyptien, là encore, dans une logique très nationaliste. Et puis, par ailleurs, ce qui aussi contribue à l'éclipser un peu, effectivement, sur le plan théorique, elle compte par sa taille, par sa centralité géographique, mais le conflit, en fait, s'est un peu déplacé aujourd'hui, puisque, hélas pour les Palestiniens, le conflit israélo-palestinien n'est plus le conflit central de la région. La nouvelle ligne de faille, elle est plutôt entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, avec cette nouvelle guerre froide qui remplace l'ancienne guerre froide où l'Égypte était l'un des acteurs majeurs, mais aujourd'hui c'est plutôt Arabie Saoudite-Iran. Et dans ce conflit, en fait, l'Égypte est assez neutre. Enfin, elle est du côté des Saoudiens parce qu'elle est obligée de l'être, parce que les Saoudiens le lui demandent, mais elle n'a pas envie de s'impliquer. C'est aux grandes dames des Saoudiens qui aimeraient bien d'ailleurs l'attirer avec eux, et parce que c'est un peu leur profondeur stratégique face à l'Iran, l'Égypte. En fait, l'Égypte ne se sent pas très intéressée par ce conflit. Et donc, d'une certaine manière, voilà, à mesure que les équilibres se déplace vers l'Est et que la nouvelle ligne de faille n'est plus le conflit israélo-palestinien et tout ce qui en découle, mais Arabie Saoudite contre Iran, l'Égypte n'est plus au cœur des dynamiques conflictuelles de la région. Donc effectivement, sur le plan théorique, elle continue de peser, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour des raisons qui sont à la fois liées à la situation politique en Égypte et puis à la dynamique des conflits dans la région, elle est certainement joue un rôle moins central aujourd'hui que par le passé.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Stéphane Lacroix. Je rappelle que vous êtes spécialiste du monde arabe, professeur associé à l'École des affaires internationales de Sciences Po et chercheur aux séries et auteur, co-auteur avec Bernard Rougier de l'Égypte en révolution aux presses universitaires de France, et Robert Solé, chroniqueur à l'hebdomadaire Le 1, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Ils ont fait l'Égypte moderne aux éditions Perrin. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Marion Lestel et Nathalie Laporte. Samedi prochain, c'est Chantal Leroux que vous retrouverez dans Géopolitique. À très bientôt.